France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 27 février. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, à la recherche du patient zéro dans l'Oise. Deux hommes qui n'ont pas séjourné dans un pays à risque ont été contaminés par le Covid-19. L'un est mort, l'autre est dans un état grave. Reportage à l'hôpital de Creil dès le début du journal. Après les autres titres, Agnès.
L'épidémie de coronavirus encore avec l'explosion de la demande en gel hydroalcoolique. Les répercussions inattendues sur la campagne pour les municipales et les autorités chinoises accusées de pratiques autoritaires. Les municipalités ont-elles tiré les leçons de la tempête Xynthia ? C'était il y a 10 ans exactement. Et puis le fol espoir des supporters lyonnais après la victoire de l'OL hier soir face à la Juve.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Il s'était fait connaître il y a 2 ans avec son traité d'économie hérétique. Il revient avec Les Délaissés, un livre politique qui veut unir les perdants de la mondialisation pour prendre le pouvoir. L'économiste Thomas Porcher sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. J'ai nommé Gilles Legendre. Vos questions dès maintenant. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. C'est donc une course contre la montre engagée par les autorités sanitaires pour retrouver l'origine de la contamination des 2 patients de l'Oise. Le premier, un enseignant de 60 ans hospitalisé durant plusieurs jours à Creil, est mort peu après son transfert à la Pitié-Salpêtrière dans la nuit de mardi à mercredi. Le second, un homme de 55 ans, d'abord pris en charge à Compiègne, est actuellement hospitalisé au CHU d'Amiens dans un état grave. Aucun des deux n'a séjourné dans une zone à risque. Il faut donc retracer leur emploi du temps durant ces derniers jours pour tenter de trouver le patient zéro, celui qui les a contaminés. Les autorités tentent aussi de limiter la propagation du Covid-19 en recherchant toutes les personnes qui ont été en contact avec eux. Un plan blanc a ainsi été déclenché à l'hôpital de Creil où s'est rendue Mathilde Dehimy. Reportage.
Il faut travailler vite pour retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient contaminé dans sa vie personnelle, professionnel et dans son parcours médical. L'hôpital de Creil a donc appelé du personnel en renfort pour participer à cette enquête. Mais la vie de l'hôpital, elle n'a pas changé pour la plupart des patients comme Dominique, opéré en ambulatoire.
Il n'y a pas ce sentiment d'insécurité. J'ai trouvé le personnel soignant attentif et puis voilà, serein, quoi. Je ne les ai pas trouvés troublés ou stressés ou angoissés.
Pas d'inquiétude, mais Patrick se demande s'il ne fallait pas prendre plus de précautions.
Dans ces moments-là, peut-être que ils auraient pu fournir des masques à l'entrée pour tout le monde, qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Ça se trouve, on sera peut-être rappelé un jour pour dire « Tiens, vous êtes venu tel jour à l'hôpital, est-ce que vous ne pourriez pas venir faire un test ?» Ça, on ne sait pas encore.
Certains entrent ou sortent avec des masques, comme Samia. Son fils a subi une greffe. Les soignants lui demandent désormais de se protéger encore plus.
Depuis, ils nous ont demandé de prendre les précautions, on va dire, de porter le masque même en dehors de l'hôpital. Tout le personnel porte le masque. Chose qui n'était pas faite avant.
Le patient ne s'est pas rendu en Chine ou en Italie. L'hôpital ne l'a donc pas isolé sur le moment. Le service de réanimation est donc fermé pour 14 jours. Des tests sont en cours sur le personnel soignant.
Et le ministre de la Santé a annoncé hier soir un autre cas. Il s'agit de l'épouse d'un homme hospitalisé à Annecy après un séjour en Lombardie. Le bilan pour la France depuis le début de l'épidémie est donc de 2 morts, 4 malades hospitalisés et 12 personnes guéries. Face à l'inquiétude qui monte, le Premier ministre réunit ce matin à Matignon, les chefs de parti, les présidents des groupes parlementaires et les présidents d'assemblée pour faire le point. Le numéro vert d'information est désormais ouvert de 8h à 21h. Il s'agit du 0800 130 000. Les pharmacies sont dévalisées en masques et en gel hydroalcoolique. Les fabricants français comme l'entreprise Céland en Saône-et-Loire sont débordés. Ronan Gézéquel, le PDG, a dû réorganiser toute la chaîne de production.
Après l'annonce des décès en Italie, la demande s'est fortement accentuée. Elle a doublé, triplé. On a eu donc une commande de 60 000 flacons et on a des offres de prix pour 100 000 flacons. Il faut prévoir une organisation. D'abord, des investissements. Donc j'ai dû commander rapidement du matériel de conditionnement supplémentaire. On a embauché déjà plusieurs personnes et on va s'organiser. S'il le faut, on s'organisera en équipe. C'est vrai que le marché devient tendu sur les emballages, par contre. On aurait pu avoir plus d'anticipation quand il y a eu l'annonce pour la Chine sur du stockage. Il faut reconnaître qu'en 2009, avec le H1N1, il y avait eu beaucoup de fournisseurs qui ont eu du surstock. Là, c'est vraiment un scénario différent.
Propos recueillis par Valentin Boisset. Toutes les consignes pour se protéger et protéger les autres sont à retrouver sur franceinter.fr. Conséquence de cette épidémie au niveau mondial, les ventes de séjours en Asie se sont effondrées. De nombreuses compagnies maintiennent leur suspension de vol vers la Chine. Un coup dur pour Air France notamment, qui annonce de nouvelles mesures d'économie, du report de campagnes de promotion au gel d'embauche, en passant par l'annulation de séminaires ou de réceptions. Côté rail, le seul train de fret hebdomadaire entre Youran et Dourges dans le Pas-de-Calais est arrêté depuis fin janvier et ne repartira pas avant le mois d'avril. Décathlon pourrait ainsi connaître des problèmes d'approvisionnement. Des conséquences politiques aussi à Mondeville dans le Calvados. La maire sortante, Hélène Burja, est désormais confinée chez elle après un voyage de 4 jours en Italie la semaine dernière. Un débat entre les différents candidats a donc dû être annulé. Julie Pietri.
C'est dans une vidéo tournée à son domicile, une tasse posée devant quelques tracts de campagne, qu'Hélène Burga explique sa situation. Quelques jours de vacances dans la région de Venise, pas de symptômes, mais des consignes du gouvernement qui sont claires, dit-elle.
Éviter les rencontres avec des personnes fragiles, les réunions publiques.
Elle a donc choisi, en cette période de contact avec les électeurs, de rester chez elle par précaution.
Je n'irai pas faire prendre de risques à qui que ce soit.
Sa campagne se poursuit sur le net et via ses colistiers qui, eux, assurent poignée de main et porte à porte. Du côté de ses adversaires, on précise ne pas se frotter les mains pour autant.
Oh non, on n'est pas là.
Même si Joël Jeanne, tête d'une liste concurrente, Mondeville Ensemble, sait que cette quarantaine tombe au mauvais moment.
La question de la proximité avec les électeurs et la campagne de proximité, évidemment, c'est une question qui peut handicaper la dynamique de campagne. Ça, c'est une réalité.
Mais un élément gêne, en fait, les adversaires du maire. C'est l'annulation d'un débat cette semaine, l'impossibilité donc d'y faire valoir leurs arguments contre une sortante qu'ils auraient aimé déstabiliser. Jérôme Homé, par exemple, de la liste Tous Mondevillais, espère un rapide retour à la normale.
Moi, je souhaite à Mme Burga qu'elle aille bien et qu'elle puisse reprendre sa campagne, puisque le débat démocratique, c'est d'abord de pouvoir faire campagne et de comparer nos projets.
La période de quarantaine d'Hélène Burga s'arrêtera autour du 3 mars.
Le coronavirus désormais présent dans une quarantaine de pays, notamment à présent en Amérique du Sud, avec un premier cas au Brésil, mais aussi des cas en Israël, en Roumanie ou au Pakistan. L'Arabie Saoudite interdit temporairement l'entrée des pèlerins étrangers. En Chine, foyer de l'épidémie, le nombre de décès a encore baissé. 29 morts pour la journée d'hier, mais certaines victimes n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent, Marie-Pierre Vérot, des pratiques autoritaires.
Il y a bien sûr la mise au secret de journalistes tentant de documenter la situation à Wuhan. Les centaines d'arrestations arbitraires de personnes accusées de propager des rumeurs alors qu'elles critiquent juste la gestion de l'épidémie par les autorités chinoises ou encore le doute persistant sur la fiabilité des chiffres officiels de contamination. Mais les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent aussi des effets de la quarantaine. Yatche Wang de Human Rights Watch.
Il y a par exemple cet homme qui avait des problèmes de reins et était en dialyse. L'hôpital dans lequel il était soigné a soudain été réquisitionné pour traiter uniquement les cas de coronavirus. Il a dû partir et n'a pu trouver de traitement ailleurs et il en est mort. On a beaucoup d'exemples comme celui-ci. Beaucoup de gens parlent de leur oncle, leur mère, leur sœur, surtout les personnes âgées. Tous ces gens souffrent à cause de la quarantaine.
Yatche Wang a recueilli de nombreux témoignages de personnes qui attendent des soins mais dont le quartier est bouclé et que les infirmiers ne peuvent atteindre ou d'autres qui ne peuvent se rendre à l'hôpital car il n'y a plus de transport en raison de la quarantaine. Autant de victimes du coronavirus qui n'apparaissent pas dans les statistiques officielles.
Donald Trump affiche lui son optimisme. Pour le président américain, le risque d'une épidémie est très faible aux États-Unis, même si un cas non expliqué vient d'être lancé. Nous y reviendrons dans le journal de 8h30. Et puis toujours aux États-Unis, le Colorado va devenir le 22e État à abolir officiellement la peine de mort. Ce sera à partir du 1er juillet prochain.
Il est 7h09, Agnès. C'était il y a 10 ans. La tempête Xynthia frappait l'ouest de la France.
Une nuit de cauchemar, la nuit du 27 au 28 février 2010. Et un bilan très lourd au matin. 47 morts en Vendée et en Charente-Maritime sous l'effet de vents violents et de forts coefficients de marée. Les digues ont cédé. L'eau est montée dans les maisons, pour la plupart construites de plein pied dans des zones inondables. Des élus ont été condamnés. dernier. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé sur la côte atlantique? C'est un reportage de Raphaël Aubry.
10 ans plus tard, à La Faute-sur-Mer, là où Cynthia est passée, il n'y a plus d'habitation. 600 pavillons rasés et une digue entièrement refaite pour protéger la presqu'île, raconte le maire Patrick Jouin.
Plus haute, c'est-à-dire qu'il faut un niveau d'altimétrie nécessaire et suffisant. Et puis, consolider en épaisseur, en largeur, en solidité, pour faire face à la violence d'un choc plus important que Xintia.
Des travaux estimés à 2 millions d'euros. Au total, sur toute la Vendée, 28 km de digues ont été renforcés et 48 km en Charente-Maritime. Les quartiers rayés de la carte, eux, sont devenus des lieux de loisirs ou des entrepôts. Certains terrains en zone inondable, jugés constructibles avant la tempête, sont passés en zone rouge. Et puis, les alertes météo ont été renforcées. Des actions saluées par Corinne Lepage, avocate de nombreux sinistrés. Mais pour elle, il y a surtout trop d'habitations sur les côtes françaises. Et avec l'érosion côtière, encore des risques de submersion.
Il faut que les Français arrivent à comprendre d'abord ce qui va se passer. Il y a des choix très importants à faire, des choix en matière d'interdiction ou non de construire, d'admettre des constructions précaires, des débats avec les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'on assure. Je pense que c'est des sujets qui devraient être abordés dans un cadre de débat national.
Jusqu'à 50 000 habitations pourraient être menacées avant la fin du siècle.
Et puis un lourd bilan ce matin après un incendie cette nuit dans un immeuble de Strasbourg. Il y aurait 5 morts et 7 blessés selon les pompiers. Alerte neige verglas ce matin dans 10 départements du nord-est de la France, placés en vigilance orange par Météo France. Première audience hier au procès. C'est des époux Fillon, audience suspendue en début d'après-midi. Le temps pour le tribunal correctionnel de Paris de trancher des questions de procédure.
Et on termine, Agnès, avec l'exploit des footballeurs lyonnais hier soir.
Ils ont battu la Juventus Turin en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. 1-0, but de leur milieu de terrain Lucas Touzard à la demi-heure de jeu. Un régal pour leurs supporters, désormais plein d'espoir pour la suite, Cédric Guillou.
Sourire aux lèvres, les supporters lyonnais ont quitté le Groupama Stadium en ayant trouvé leur joueur.
Extraordinaire.
Bon bah super, franchement on s'y attendait pas.
Magnifique. Franchement, belle équipe, beau match, ça fait plaisir de les voir jouer comme ça.
Déterminé, discipliné tactiquement, solide défensivement, l'Olympique lyonnais a livré le match parfait pour Jérôme, venu spécialement de Caen pour ce 8e de finale aller.
Franchement, c'est le meilleur match de l'année de Lyon, je pense. Non, c'était top. Je trouve que tactiquement, ils se sont bien copiés par rapport à la Juventus, qui est une équipe quand même assez rugueuse, assez défensive. Et j'ai trouvé que derrière, ils m'ont plutôt impressionné. On avait vu une défense assez fébrile tout au long de la saison. Ça fait plaisir à voir.
Et du coup, grâce à ce succès, Anthony, écharpe de l'OL autour du cou, est très optimiste avant le match retour prévu dans 3 semaines à Turin.
On va gagner le retour tranquille. On va y aller, les doigts dans le nez, on va gagner, on va passer tranquille.
Mais avant de songer à ce match retour, les supporters lyonnais n'ont qu'un objectif en tête, voir de nouveau triompher leur équipe dimanche lors du bouillant derby face à l'AS Saint-Etienne. Lyon, Cédric Guillou, France Inter.
Et puis pour être tout à fait complet, Nicolas, ajoutons la victoire hier soir 2-1 de Manchester City sur le terrain du Real Madrid de Zinedine Zidane.
Merci Agnès Soubirande.